Actu SF, les podcasts.
Bonsoir, merci à vous de nous avoir rejoints. On va vous emmener du côté de la Lune aujourd'hui, ce soir, avec un joli plateau. C'est une conférence en partenariat avec le Planétarium de la ville d'Épinal, mais aussi le Centre de recherche pétrographique et géochimique, le Centre national de recherche scientifique et l'Université de Lorraine. Et toute l'idée de cette table ronde, c'est de pouvoir confronter à la fois l'imaginaire des auteurs et des autrices qui sont présents, et puis les sciences. Alors pas forcément pour savoir si c'est crédible ou scientifiquement viable, parce que on imagine bien que des extraterrestres sur la Lune, comme chez Johann Elliott, a priori scientifiquement parlant, sauf si on m'a caché quelque chose, c'est pas à l'ordre du jour, mais en tout cas qu'on ait une confrontation, une sorte de double vision sur notre table ronde. Alors tout d'abord, à votre droite, Natacha Vazder, agrégée de lettres modernes, docteur en littérature française, francophone et comparée, enseignante et chercheuse associée au laboratoire Claire de l'université de Bruno Montaigne. Oui, pas mal de choses sur la présentation. Et puis surtout, diriger des ouvrages comme Ces Français qui ont écrit demain, diriger ou écrit Les carnets chronolithiques donc de Michel Jury, ou bien encore Les dieux cachés de la science-fiction française francophone. Et puis anticiper la science-fiction en France et au Québec, avec en plus la vice-présidente du CERLI. Et puis on verra peut-être avec toi le côté historique de la science-fiction et de la Lune. Avec... Vas-y. À ses côtés, Johann Elliott. Johann Elliott, vous le connaissez sans doute si vous êtes habitué aux Imaginales. C'est un local de l'étape qui habite dans le coin, avec notamment des livres comme Création ou Enigma, Reconquérant, La Légion Écarlate, on en a parlé il n'y a pas longtemps, Frankenstein 1918, et puis aussi La Lune Seule le Sait, avec pas mal de choses à dire de ce côté-là. On a la grande chance d'avoir Johanna Sinisalo, pardon, je ne voudrais pas écorcher votre nom, qui nous vient de Finlande, avec des romans comme Jamais avant le coucher du soleil, ou bien encore, il y en a eu 7 autres, dont Oiseau de malheur, mais nous, on va essentiellement parler du Reich de la Lune. Vous vous souvenez peut-être du film Iron Sky. Eh bien, Iron Sky, ça vient du Reich de la Lune, avec des nazis qui sont cachés de l'autre côté de la Lune. Donc on va pouvoir en parler. Et elle est accompagnée d'Anne Colin du Terrail, qui va pouvoir faire l'interprète. Pour tout comprendre. Et puis à mes côtés, Jessica Flao, chercheuse CNRS au Centre de recherche pétrographique et géochimique. Est-ce que vous pouvez juste me dire ce que c'est les recherches pétrographiques?
La pétrographie, c'est plus la composition des roches, et la géochimie, on va chercher à essayer de comprendre un peu leurs composants primaires, élémentaires, et puis leur origine. Donc c'est la géologie globalement.
Et vous travaillez sur les données renvoyées par les missions lunaires et Marseille, donc sur les sols peut-être plus, c'est ça, de la Lune et de Mars?
Sur la formation, l'évolution de la Lune et des autres planètes, voilà.
D'accord, ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vais poser une première question à notre historienne de la science-fiction sur place. Est-ce que la Lune est un sujet de prédilection pour les auteurs de science-fiction?
Oui, tout à fait. Et puis, avant les auteurs de science-fiction, les auteurs tout court, ça remonte d'ailleurs à l'Antiquité, avec Lucien de Samosate et l'Histoire véritable. Alors, les quelques références que je vais vous donner, au moins on va dire jusqu'à Jules Verne, parce que bon, après ce sera, on reviendra évidemment sur le sujet certainement, mais ce sont des, on va dire que ce sont des voyages dans la Lune qui sont un petit peu fantaisistes, un petit peu extravagants, parce que en réalité, depuis l'Antiquité, en fait, les hommes pensent qu'ils pourraient aller dans la Lune très facilement en se déplaçant, lorsque la Lune est plus proche. Vous savez, c'est des phénomènes évidemment naturels. Lorsque la Lune est plus proche, eh bien, on pense que voilà, si on la touche, on peut effectivement y aller. Donc, Lucien de Samosate propose donc alors les moyens pour aller sur la Lune. durant l'Antiquité, et puis jusqu'à la Renaissance, sont totalement fantaisistes. Donc ça va être par exemple une tempête qui va les amener sur la Lune. Les Sélénites sont des êtres parfois assez bizarres, qui par exemple poussent comme les arbres, ou ont des enfants dans leurs mollets. Vous voyez, donc c'est vraiment des images, c'est des extraterrestres, mais très, très extravagants. Et puis on va avoir le Roland Furieux, par exemple, de l'Arioste, donc au tout début du XVIe siècle, où là, eh bien, Roland, donc le personnage évidemment que vous connaissez de la chanson de Roland, a perdu la raison et il va la chercher sur la Lune. Et Gustave Doré, par exemple, au XIXe siècle, eh bien, va illustrer, alors de façon, vous avez ça sur Internet, hein, en tapant le Roland Furieux de l'Arioste Doré, vous avez de magnifiques illustrations de Gustave Doré, vraiment des illustrations de science-fiction avant la lettre. Et puis, évidemment, il faut citer, par exemple, Cyrano de Bergerac, hein, au tout début, donc, du XVIIe siècle avec État et Empire de la Lune, où là, eh bien, on va dans la Lune avec des moyens, là aussi, un petit peu extravagants, mais un peu moins quand même, parce qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien, la science s'en mêle et on essaie quand même d'avoir des moyens un petit peu rationnels, donc d'aller dans la Lune. Et puis, il y a une autre référence qui est tout à fait intéressante aussi sur ces voyages dans la Lune, un peu fantaisistes, c'est bien évidemment le baron de Münchhausen, donc qui était, alors, en faisant des recherches sur le sujet, eh bien, le baron de Münchhausen a réellement existé. Évidemment, hein, il n'est pas allé sur la Lune sur un boulet de canon, mais c'était un personnage tout à fait extravagant, mais historique, qui a existé. Et donc, on a repris à partir du personnage historique, on en a fait donc un personnage de fiction, bon, un petit peu quand même à la façon de Voltaire et de son Candide. Voilà, on est sur du conte philosophique, on est plutôt dans la veine donc de Gulliver et de Swift, mais ça reste quand même intéressant. Et puis après, alors je passe très très vite, hein, mais après évidemment au 19e siècle, je pense que les deux grands références, c'est bien sûr Jules Verne et son voyage autour de la Lune, hein, ça c'est... Et puis là, évidemment, la science là est très importante, puisque Jules Verne essaie quand même de réfléchir à un moyen d'aller sur la Lune plausible, donc bien sûr avec une fusée, alors qui ressemble plus à, pas un boulet de canon, on va dire, mais à un obus qu'autre chose, avec un intérieur très 19e siècle, donc évidemment c'est complètement invraisemblable. Et puis l'autre, je pense, avant de passer à la science-fiction proprement dite du 20e siècle, parce que bon, là, on la connaît un petit peu mieux évidemment, on va avoir donc le voyage dans la Lune de Méliès, considéré donc 1902, qui est considéré comme le premier film de science-fiction proprement dit, mais c'est encore une lune assez, voilà, assez fantaisiste. Tout ça, vous le trouvez, donc c'est tombé dans le domaine public. Et si vous ne l'avez jamais vu, il faut regarder ce petit film, parce qu'il a été restauré. Et c'est une merveille de fantasy. Mais plus on va aller vers le voyage dans la Lune, le vrai 1969, et plus en fait la science-fiction va se désintéressée de la Lune, elle va s'intéresser à Mars, elle va s'intéresser à d'autres voyages spatiaux, mais la Lune beaucoup moins, parce que la Lune va devenir accessible.
Oui, c'est-à-dire que plus on la connaît, plus on la touche scientifiquement, et plus, voilà, l'imaginaire va ailleurs.
Exactement, et l'imaginaire, à partir des années 50, où là vraiment on commence à avoir des projets, les Américains ont des projets très sérieux justement pour aller sur la Lune, hein, puisqu'ils iront quasiment, donc, enfin, 19 ans plus tard, eh bien on va avoir Bradbury et ses chroniques martiennes, et puis tout un imaginaire martien qui va se développer, vous voyez, donc plus on se rapproche de la réalité, et au cinéma, c'est la période où on va avoir des films assez parodiques d'ailleurs sur le voyage dans les années 60-70. Et puis, intéressant quand même, c'est que les derniers films de science-fiction sur la Lune, on a par exemple Moon, mais qui est une histoire de clone, en 2009, eh bien, ce sont quasiment des films d'horreur. C'est-à-dire que la Lune, dans le cinéma contemporain, n'est plus un objet de rêve, mais un objet de terreur. Voilà.
Johanna Sinisalo, pourquoi avoir choisi la Lune pour mettre vos nazis qui attendent leur revanche?
No ensinnäkin voisin kertoa, että tämä ajatus natsista kuussa ei ole minun omani.
Oui, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait cette idée de nazi dans la lune, ce n'est pas mon idée à moi.
Tämä tämä elokuva Iron Sky, joka, johon tämä kirja perustuu, niin, niin mä olen ollut niin kuin mukana sitä käsikirjoittamassa, mutta tämä idea tosiaankin tuli tältä elokuvan tekijätyöryhmältä.
Oui, donc en fait ça vient du film Iron Sky. J'ai participé au scénario, mais en fait cette l'idée même des nazis sur la lune était une idée du reste de l'équipe.
Kun mä kirjoitin sitten kymmeniä, voisin sanoa melkein satoja versioita tästä käsikirjoituksesta, niin minulle tietenkin jäi hyvin paljon käsiini käyttämätöntä elokuvassa käyttämätöntä materiaalia.
Oui, donc j'ai écrit et réécrit le scénario du film une dizaine ou même une bonne centaine de fois. Et donc il est évident qu'il m'est resté énormément de matériaux bruts qui n'étaient pas utilisés finalement dans le film.
Mun saksalainen kustantajani pyysi minua jo silloin sen ensimmäisen Iron Sky-elokuvan ollessa ajankohtainen, niin tällaista niin kuin kirjaversiota elokuvasta.
Et donc au moment de la sortie du film déjà, mon éditeur allemand m'a demandé si je pouvais faire une version écrite, romancée du film en fait.
Silloin en halunnut sitä tehdä, mutta nyt kun elokuvasta tuli sitten jatko-osa, niin silloin saksalainen kustantaja pyysi sitä uudelleen ja päätin sitten kirjoittaa tämän.
Et à l'époque j'avais refusé, ça m'intéressait pas. Et là récemment il y a donc eu une suite d'Iron Sky. Et là l'éditeur allemand a reposé la question et cette fois-ci je me suis décidée.
Ja lopulta huomasin, että sitä oli erittäin hauskaa kirjoittaa, koska saatoin luoda sille elokuvalle ikään kuin sellaisen taustan, mitä elokuvassa ei koskaan nähdä.
Et finalement j'ai trouvé cette écriture extrêmement séduisante et agréable parce que ça m'a permis de créer en dehors du film tout un contexte qui n'est pas visible dans le film.
Ja myöskin samalla jouduin ikään kuin luomaan tällaisen toimivan siirtokunnan kuuhun.
Et du coup, j'ai été obligée aussi de créer une communauté fonctionnelle sur la Lune.
Eli kirjasta voi lukea, että miten nämä natsit siellä kuussa sitten elivät, sitä omaa arkeaa, mitä he söivät ja minkälaisia tapoja ja tottumuksia heillä oli.
Et donc, dans le livre, le lecteur découvrira comment fonctionne la communauté nazie sur la Lune, comment ils sont organisés, ce qu'ils mangent, quel est leur quotidien et tout le reste.
Ja musta oli erittäin kiehtovaa yrittää soveltaa kuun olosuhteita sit tällaisen niin kuin siirtokunnan perustamiseen aivan kuupölystä ja pienemmästä painovoimasta lähtien.
Et donc j'ai trouvé très amusant en fait de créer cette communauté à partir de zéro, mais en tenant compte quand même de certaines contraintes comme la poussière lunaire, la faible pression lunaire et toutes sortes d'éléments réalistes quand même.
Mitä raaka-aineita heillä oli käytettävissä, mistä he saivat vettä ja niin edespäin.
Et les matières premières disponibles, la façon d'obtenir de l'eau.
Ça vous a demandé beaucoup de documentation, de recherche, de discussion peut-être avec des scientifiques?
Mä olen ollut kiinnostunut avaruustieteistä ja planetologiasta jo ihan hyvin nuoresta lähtien.
En fait, je m'intéresse à la planétologie, la cause, depuis que je suis toute petite, donc j'ai déjà pas mal de connaissances.
Ja nämä mun tietoni, mihin mä perustin nämä, niin ovat siis mielestäni niin kuin ihan perustuvat kyllä ihan aika pitkälle tieteellisiin faktoihin.
Et donc moi je pense que la plupart part des éléments que j'ai utilisés sont effectivement des données scientifiques.
Toki mun täytyy sitten jossakin kohtaa myöskin olla hyvin epätieteellinen.
Mais j'ai quand même été obligée à certains moments d'être totalement anti-scientifique.
Kirjassahan tietenkin natseilla on kuussa käytettävissään sellaista teknologiaa, jota vielä edes maan asukkailla ei ole.
Et les nazis effectivement utilisent sur la Lune une technologie dont nous ne disposons pas aujourd'hui ici.
He kykenevät esimerkiksi säätelemään hieman painovoimaa.
Ils sont capables entre autres de réguler la force de la gravité.
Ja siihen on hyvin suuri käytännön syy, eli jos he kasvaisivat siinä kuun painovoimassa, niin he eivät pystyisi esimerkiksi kunnolla edes kävelemään maan pinnalla.
Et il y a ça une raison tout à fait pratique, c'est que s'ils ne pouvaient pas régler la gravité, s'ils grandissaient dans un milieu où la gravité est faible, ils seraient incapables de se mouvoir par exemple sur terre, des choses comme ça.
Ja antigravitaatiosta tai gravitaation säätelystä he saivat tietenkin tietonsa, kun he ryöstivät Nikola Teslalta hänen salaiset paperinsa, kun hän kuoli New Yorkissa aikoinaan.
Et bien sûr, si les nazis sont capables d'utiliser l'antigravité, c'est parce qu'ils ont volé les travaux de Tesla au moment où il est mort à New York.
Johan, je vais te poser la même question pour notamment la Lune seule de sait. Hein. Quel est ton rapport un petit peu à la Lune et comment toi est-ce que tu as utilisé l'astre lunaire?
Ouais. Alors bon, mon rapport, là, il est purement alors imaginaire, pour pas dire fantasmatique ou fantasmagorique. Il n'y a rien de scientifiquement crédible dans ce roman La Lune seule le sait, pour plusieurs raisons. D'une part parce que je ne suis pas un scientifique et que ça m'a permis de façon très très lâche de me dispenser de toute recherche scientifique, j'admets. Mais la deuxième raison, c'est que donc ça se passe en 1889. C'est un clin d'œil, enfin même plus qu'un clin d'œil, c'est un hommage à Jules Verne et à de nombreuses œuvres de fiction de l'époque. Et je voulais aussi retrouver ce mélange. Alors à la fois, quand même. Il y a une apparence de technologie, mais il y a un côté encore onirique. Les ambiances de Méliès dont tu parlais. Enfin, je voulais qu'aussi dans cette aventure, on soit encore dans cet imaginaire qui conserve pour moi une part naïve de l'époque, de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'est la Lune, de ce qu'on y trouve. C'est encore une époque. Alors certes, c'est le 19e siècle, c'est une époque où quand même la raison, la science se développent, sont là, mais tout ça reste encore ancré dans une vision passée. Tout bêtement, à cette époque-là, on n'a aucun moyen technologique d'aller voir, même de s'approcher vraiment de cet objet qui pourtant est là. La Lune visible par toute l'humanité depuis très longtemps, donc avec toutes les projections fantasmatiques qu'on peut faire. Et encore plus, voilà, moi ce qui m'a fasciné, c'est cette idée de face cachée. Alors là, certes, bon, on peut encore observer avec le développement des lunettes, etc., la face visible. Mais alors là, la face cachée, c'est le territoire idéal, voilà, de pure imagination. Voilà. Donc voilà vraiment ce qui m'a intéressé dans ma mise en scène de la Lune et de son univers. Voilà pourquoi je l'ai fait. Pourquoi j'ai peuplé la face cachée d'une civilisation extraterrestre qui aurait débarqué là, mais depuis très 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 longtemps, et qui se décide enfin en 1889, pour des raisons que j'explique dans le roman, à venir contacter les terriens.
Jessica Flau, est-ce que vous nous confirmez qu'il n'y a pas de nazis sur la face cachée, et est-ce que surtout, non, au-delà de ça, plus sérieusement, est-ce que les scientifiques que vous êtes se nourrissent aussi un petit peu de l'imaginaire des auteurs sur la Lune ou sur Mars?
Alors, je comprends que la Lune puisse être un objet de fascination. Je ne ferais pas ce métier si je n'avais pas moi-même été inspirée par la Lune et par le ciel en étant petite fille. Après, j'avoue qu'on est souvent partagé au niveau de ce qui est de la science-fiction. Moi, j'apprécie la science-fiction. Des fois, je peux m'irriter pour des petits détails qui c'est vrai, ne sont pas réalistes. Et malheureusement, c'est des choses qu'on a l'habitude d'essayer aussi qu'on répète au public et qui ne passent pas. Et parce que des fois, la frontière entre justement l'imaginaire et la réalité est floue. Et par exemple, pour parler de cette face cachée, il y a énormément de gens qui pensent que cette face cachée est dans la pénombre. Alors c'est pas vrai, on appelle ça la face cachée de la Lune, parce que la Lune tourne met autant de temps pour tourner sur elle-même, elle met 28 jours, qu'elle met pour tourner autour de la Terre. Donc elle nous montre toujours la même face à la Terre, qu'on appelle la face visible. La face cachée, c'est la face que la Terre ne voit pas, mais le Soleil voit les deux faces. Donc il y a autant de Soleil sur la face cachée que la face visible. Et du coup, en tant que scientifique, des fois, c'est un petit peu énervant de devoir répéter sans arrêt que non, il n'y a pas, c'est pas le dark side of the moon, et que c'est typiquement ce qu'on appelle le far side en anglais. Donc voilà, il y a bien du soleil sur la face cachée. A priori, il n'y a pas de nazis, à ce qu'on sache. Hein. Les images de la face cachée, les premières images qu'on a eues, on les a eues quand même en 1959 par la mission soviétique Luna 3. Donc on voyait déjà, grâce à cette mission, que la face cachée était un petit peu différente, géologiquement parlant, de la face visible. On n'y a pas repéré de base. Et pour tout vous dire, on ne s'est jamais posé sur la face cachée jusqu'à cette année. Et donc, ce qu'il y a sur la face cachée en ce moment, c'est un robot chinois. Voilà, ce n'est pas des nazis, mais c'est des Chinois. Qui s'est posé début janvier, ce qui était un exploit, hein, puisque c'est la première fois qu'on y va. Et la difficulté était entre autres une difficulté technique qui fait qu'on ne peut pas communiquer avec des missions qui sont sur cette face et qu'on est obligé d'utiliser des satellites relais. Donc voilà, désolé de vous décevoir, cette face cachée, a priori, n'est pas habitée, mais elle est tout elle est quand même fascinante, en tout cas pour les géologues, parce qu'elle est très différente de la face visible et on a du mal à comprendre cette différence.
Je ne désespère pas, j'attends que les Chinois explorent un peu plus en avant, je ne sais pas, creusent peut-être et découvrent des choses.
Ils sont bientôt au pôle de la Lune, alors peut-être, que vous, peut-être qu'il y aura d'autres choses au niveau des pôles, on ne sait jamais.
Natacha, en termes de science-fiction, c'est ce que tu disais, les récits lunaires ont vraiment suivi les avancées scientifiques au fur et à mesure, ou au contraire, des gens comme Joan Elliott s'en détachent totalement?
Ah oui, oui, non, dans les récits donc, de science-fiction, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, parce que à partir de Méliès, le cinéma va prendre le relais finalement de la littérature. On va trouver par exemple la femme de Fritz Lang, Thea von Arbou, va faire donc dans les années, on est, alors que je ne dise pas de bêtises au niveau des dates, je crois qu'on est à la fin des années 20, un petit peu après Métropolis, va faire un très beau film qui s'appelle La femme dans la lune. Et là, on a vraiment. Pardon. Voilà, il y a de la. Oui, aussi, oui, non, mais voilà, bon. Mais on est. L'idée, si vous voulez, alors même si je comprends parfaitement que ça agace les scientifiques, on est complètement, si vous voulez, dans quand même une mouvance où, voilà, c'est une femme scientifique qui va étudier la Lune. Alors, bon, bien sûr, il y a une atmosphère sur la Lune, donc forcément, c'est pas scientifique du tout. Mais je dirais que dans l'histoire des représentations, on est sur des personnages qui se rapprochent, en fait, du scientifique. Et de plus en plus, entre les années 30, les années 40, et puis après on est complètement sur des scientifiques, c'est très rationnel, jusqu'à la fameuse série Cosmos 99 qui est bien connue de tous les aficionados de science-fiction. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette série, peut-être que Jessica ça vous dit, non, mais c'est une série qui est un peu kitsch, et une série des années 70, mais où là oui, non, si, elle est kitsch, si, il faut le dire quand même, elle est kitsch, mais moi j'adorais, hein, mais bon, elle est quand même très kitsch, voilà, et dans cette série, en fait, la Lune quitte son orbite, et donc là, ça devient un vaisseau spatial, mais les gens qui sont sur cette Lune vont connaître des aventures très psychédéliques, parce qu'on est dans les années 70, mais il n'empêche que ce sont quand même, des scientifiques, et on voit bien que la Lune est complètement rattachée à une équipe, à une base lunaire scientifique, et on va retrouver cette image-là, voilà, jusque dans les années 2000. Et après, la Lune, je vous dis, elle disparaît quand même des radars, des représentations, parce qu'on connaît la Lune, parce que la Lune est devenue un objet de science, la Lune est devenue un objet d'exploration spatiale. Donc finalement, plus d'intérêt parce qu'elle n'a plus de mystère. Voilà.
Comment est-ce que vous vous en êtes sorti entre cette idée délirante de nazis, très drôle, hein, sur la Lune, et le côté scientifique des choses, qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait que ça puisse quand même être crédible scientifiquement sur un certain nombre de points?
Että mikä sua kiinnosti tässä niin kuin vastakohdassa, tai mikä sua kiinnosti eniten, natseista vai kuusta?
Mua ehkä kiinnosti eniten tässä se ajatus, että olisi mahdollisuus käsitellä tämmöistä äärimmäisen eristäytynyttä yhteiskuntaa.
En fait, ce qui m'intéressait le plus dans cette histoire, c'était plutôt de pouvoir décrire une société ou une communauté totalement isolée du reste du monde.
Eli heillä ei todellakaan ole mitään, siis tavallisella kansalaisella ei ole mitään tietoa maasta eikä maan kulttuurista, joten tämä ympäristö on äärimmäisen hedelmällinen indoktrinoida ihmisiä tiettyyn ajatteluun ja pitää heidät sen ajattelun parissa.
Donc le citoyen ordinaire sur la Lune, chez les nazis, donc, n'avait absolument aucune connaissance de la Terre. Et c'est un milieu dans lequel il était donc extrêmement facile d'endoctriner les gens. Et c'est ça qui était passionnant à écrire.
Ja hyvin kiinnostava oli tietenkin se, että heillä on hyvin vähän käytettävissään niin kuin, erilaisia ruoka-aineita ja raaka-aineita. He elävät siis hyvin niukkaa ja köyhää elämää silloin kuussa.
Et ce qui est intéressant aussi, enfin ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les nazis sur la Lune ont donc très peu de ressources en fait, et vivent une, par exemple au niveau de la nourriture et du reste, ils sont extrêmement sobres, enfin ils ont très peu de choses.
Kun tällainen ihminen, joka on kasvanut siis äärimmäisen vahvasti yhden ajattelutavan kanssa ja sitten myöskin hän ei ole koskaan nähnyt sitä, miten rikas ja hedelmällinen maa on. Kun hän sitten menee sinne, niin hänellä on ainutlaatuinen näkökulma meihin.
Et donc dans le roman, il y a un personnage qui arrive sur Terre, et ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment une personne qui a été élevée donc dans un environnement extrêmement restreint et strict débarque tout d'un coup sur la Terre et découvre toute la fertilité et la richesse de la planète dont elle n'a absolument aucune idée.
Eli kuu tässä ikään kuin kuun yhteiskunta tarjoaa niin kuin meille hienon vertailukohdan meidän omaan yhteiskuntaamme.
Et donc l'idée c'est que cette société lunaire nous offre un point de comparaison très intéressant par rapport à notre société à nous.
Ja kyse ei ole pelkästään niistä elinolosuhteista eri painovoimassa, vaan kysymys on myöskin siitä, että miten kasvatetaan ihmisiä vain yhden ainoan aatteen nimissä.
Il ne s'agit pas tant finalement des conditions de vie sur la lune, mais plutôt de la façon dont on peut élever des gens dans une seule idéologie extrêmement restreinte.
Ja yksi tärkeimpiä kysymyksiä tässä oli tietenkin, että voidaanko ihmistä syyttää jostakin ideologian kannattamisesta, jos hänellä ei koskaan ollut mitään mahdollisuutta kyseenalaistaa sitä.
Et la question c'était aussi est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un ou le culpabiliser parce que il adhère à une idéologie quand il n'en connaît absolument aucune autre.
J'ai une petite question pour la scientifique. Est-ce que ce sont le même type de recherche qu'on fait sur la Lune ou sur Mars, en tout cas la même approche?
Je dirais qu'à l'heure actuelle, on en sait plus de la Lune parce qu'on a la chance d'avoir quand même eu près de 400 kilos de roches qui ont été ramenées par les missions Apollo et Luna. Pour Mars, on n'a encore jamais ramené d'échantillons. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout de la Lune, loin de là. Hein. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais ce qu'on a fait avec les missions Apollo, Luna, les endroits qu'on a échantillonnés, ça correspond à moins de 4% de la surface lunaire. En fait, on n'a pas exploré grand-chose. Ces échantillons, en plus, on les a ramenés il y a 50 ans. Si on nous demandait demain d'envoyer un homme sur la Lune, on ne serait probablement pas capable. On n'a plus accès à ces technologies, on a perdu beaucoup du savoir-faire. On ne va pas sur la Lune aussi facilement et on est loin de tout connaître de la Lune. On en sait déjà un petit peu plus que Mars, c'est vrai. Après, les méthodes d'analyse restent quand même beaucoup de l'imagerie par satellite et tout un tas de données acquises, de données de type varié par des sondes que l'on va envoyer en orbite aussi bien autour de la Lune que de Mars. Et puis, il y a des endroits spécifiques qui nous paraissent intéressants, qui nous paraissent pouvoir répondre à des grandes questions. On essaye d'envoyer des atterrisseurs ou des robots. Donc, beaucoup du travail se fait tout de même à distance. Mais pour la Lune, on a ce petit plus qu'on a quand même quelques roches.
Pour toi, Natacha, est-ce que pour les récits de science-fiction, c'est les mêmes ressorts pour les récits qui se passent sur la Lune ou sur Mars, ou fondamentalement, c'est différent ?
Alors par rapport à Mars, le point de départ dans la littérature de science-fiction, c'est Bradbury et ses chroniques martiennes. Ça c'est vraiment, c'était la Lune qui portait, je dirais, toute la charge fantasmatique des voyages spatiaux. Ça a été un premier but à atteindre, vous l'avez bien compris, dans l'histoire de l'imaginaire. Hein. Et puis, je crois, comme le disait Jessica, c'est un objet qui a toujours été à portée en fait des hommes, donc les hommes ont toujours fantasmé dessus. Je pense qu'ils rêvent d'aller dans la Lune. On n'a pas de preuves évidemment, mais quasiment depuis les temps préhistoriques, ça c'est clair. Mars, elle est plus lointaine, donc elle est différente. Donc Mars, il faut vraiment d'abord, on a eu des images de Mars, et à partir de là, va se créer effectivement un imaginaire martien. Donc à la fin du 19e, donc là, d'un point de vue de la science-fiction, les chroniques martiennes, c'est une partie de l'imaginaire. Mais après, d'un point de vue de l'observation, on a quand même eu les observations de Camille Flammarion, par exemple. Et on a tout un imaginaire martien qui s'est développé et qui a été concomitant, en fait, aux observations scientifiques. Sauf que les observations scientifiques, à l'époque, on a imaginé des canaux sur Mars qui n'ont jamais existé. On a imaginé toute une vie sur Mars qui n'a jamais existé. Et donc, du coup, je dirais que l'astre lunaire et la planète Mars ont connu quand même des trajectoires un petit peu différentes, justement, dans cette histoire des représentations et dans cet imaginaire. Parce qu'en fait, jusqu'à assez peu de temps, on a quand même rêvé qu'il y avait de la vie sur Mars. jusqu'à, je crois, voilà, on va dire les années 70-80, hein, Jessica, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises pour les scientifiques. On est sûr qu'après, voilà, on était persuadé qu'il y avait eu de l'eau, on était persuadé qu'il y avait de la vie. Il y a eu le mythe de cette espèce de forme de masque sur Mars pendant très très longtemps. Enfin, je veux dire, voilà, les sondes vikings, même après les sondes vikings, on a continué à fantasmer sur Mars, alors que la Lune avait perdu véritablement toute sa charge fantasmatique, hein, complètement. Et même la Lune, je vous dis, est devenue pour la science-fiction un lieu. Il y a eu deux films d'horreur qui se passent sur la Lune, où on envoie donc des cosmonautes, et puis les malheureux en fait se rendent compte que les cailloux sont des espèces de petits êtres parasitaires. Enfin, c'est vraiment un film d'horreur. Alors que Mars continue en fait, je dirais, d'exciter l'imagination, même si on sait très bien que il y a pas d'extraterrestres sur Mars, il y a pas eu de vie sur Mars, mais maintenant, on pense que peut-être qu'un jour, on pourra terraformer Mars. Et je crois, si je ne me trompe, parce que je l'ai vu à Bordeaux, au laboratoire d'astrophysique, que la mission, donc le rover 2020, les scientifiques, à évidemment une toute petite échelle, mais vont commencer à voir s'il est possible de fabriquer de l'oxygène sur Mars. Mais vraiment à toute petite échelle, hein, on est bien d'accord. Hein.
Alors, il y a plusieurs missions en 2020. On a de la chance, ce sera l'année de Mars. Il y a trois robots qui partent, un chinois, un américain, un européen. Alors oui, le robot américain a une toute petite expérience pour regarder si on peut faire de l'oxygène sur Mars. Alors, c'est vraiment anecdotique.
C'est tout à fait.
Mais surtout, le robot européen, son objectif, c'est quand même de chercher des traces de vie actuelle ou passée sur Mars. Donc par contre, ce problème de la vie sur Mars, il n'est pas résolu. Effectivement, il n'y a pas d'extraterrestres comme on peut l'entendre. Maintenant, on a des caméras qui imagent Mars avec des résolutions très précises. On voit des objets d'à peu près 25 cm à la surface. Alors on aurait un éléphant rose à la surface, on le verrait. Par contre, on n'exclut pas du tout la possibilité qu'il y ait des bactéries ou des micro-organismes dans le sol de Mars, et c'est ce qu'on va aller chercher avec les prochaines missions.
Il y a des
missions.
Analyses géologiques très fines, je crois, hein, qui sont en train d'être faites, enfin qui sont faites depuis quelques années quand même.
Alors, d'un point de vue géologie, on voit que Mars a eu beaucoup d'eau liquide à sa surface dans son passé. Elle était probablement au début de son histoire un peu comme la Terre, avec des océans, des rivières, des lacs. Et puis elle a connu un changement climatique majeur il y a 3,5 milliards d'années. On pense qu'elle a perdu le gros de son atmosphère, notamment parce qu'elle est plus petite en taille, elle n'a pas su retenir certaines molécules comme l'eau, etc. Donc elle est devenue plus froide, plus sèche. Il y a toujours de la glace sur Mars, il y a de la glace dans le sol, il y a de la glace au pôle. En profondeur, cette glace pourrait être fondue, hein, donc il pourrait y avoir de l'eau liquide qui pourrait aussi aider la vie à survivre. Et c'est ce que va faire notre prochain robot martien, il va creuser à 2 mètres de profondeur pour aller voir si sous la surface, il n'y a pas des bactéries ou des micro-organismes qui ont pu survivre, ou au moins les traces d'une vie passée. Donc on n'a pas complètement résolu, on n'a pas complètement perdu espoir de trouver de la vie sur Mars, mais bien évidemment, ce ne sera pas des extraterrestres qui ressemblent à des hommes ou des choses, des
formes
de
vie très développées. Non, mais juste interrogation, en fait, continue de finalement d'alimenter.
Voilà, donc Mars continue quelque part
à continuer d'alimenter le rêve. Voilà. Alors que je pense que par rapport à la Lune, vraiment le rêve est. Et pas mort, mais c'est pas un astre mort, mais presque.
Alors, on l'a peut-être vécu aussi scientifiquement quelque part. C'est vrai ça commence à revenir là depuis que maintenant les Indiens, les Chinois, les Japonais sont sur la Lune. Dans les pays occidentaux, on commence à repartir un peu plus à étudier scientifiquement la Lune. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont abandonné un peu la Lune pour se tourner vers Mars dans les années 70-80, parce que déjà on n'avait plus de mission après la fin prématurée du programme Apollo. Et puis il y avait aussi cette idée que on a été là-bas. Donc voilà, on l'a vu, on l'a fait, on passe au prochain. Malheureusement, donc il y a eu aussi un petit peu cet abandon scientifiquement parlant de la Lune au profit par exemple de Mars.
Est-ce que les découvertes scientifiques, qui sont aussi des images, quand on parle possiblement d'eau liquide sur Mars, sont propres à inspirer l'auteur science-fiction que tu es ?
Ah oui, complètement. Alors, même si j'expliquais tout à l'heure, ma première approche littéraire était complètement purement imaginaire, parce que se passait il y a plus d'un siècle. Moi, je continue à titre personnel. Alors, j'essaye... au niveau de mes propres connaissances, je n'ai absolument aucune formation scientifique, mais j'essaie de suivre effectivement toutes ces projets de mission. Je suis fasciné, d'abord je me réjouis qu'on réenvoie effectivement tous ces projets de robots, de sondes, etc. dans l'avenir. J'espère vivre assez vieux pour voir déjà le premier pas sur Mars aussi, mais alors là, Je sais pas, on entend depuis quelques années quelques intentions politiques ici et là, mais bon, il faudra encore plus que ça. Mais on évoquait à un moment des horizons 2030, mais là ça me paraît peut-être un peu trop près. Après, 2040, 2050, je ne sais pas, mais bon. Enfin voilà, non, mais ça me fascine. Et puis, je trouve qu'il y a encore quand même forcément une petite part de mystère, mais alors du coup, bien plus documentée scientifiquement. Qui est qui est une base de travail formidable pour un auteur de science-fiction, ça j'en suis. Oui.
Il a dit assez vieux, ça laisse un peu de marge quand même. Johanna, vous avez écrit le livre après le film. Comment est-ce que vous avez réussi à vous distancier des images?
Siitä oli hyvin paljon apua, että kun olin käsikirjoittanut tämän elokuvan.
J'ai été très aidée par le fait que j'avais quand même écrit le scénario de ce film.
Eli henkilöt, maisemat, tapahtumat, kaikki olivat hyvin kirkkaina mun päässäni jo ennen kuin ne tehtiin elokuvaksi.
Et donc j'avais déjà dans la tête tous les personnages, tous les paysages, beaucoup d'éléments du film avant même qu'on fasse le film.
Ja koska mä tein paljon taustatutkimusta jo sitä elokuvaa varten siitä, että miten siellä kuussa oikein eletään.
Et j'ai quand même je me suis beaucoup documenté au moment du scénario donc sur les possibilités de vie sur la lune.
Ja huomasin, että niitä asioita ei ollut kerta kaikkiaan aikaa käyttää elokuvassa.
Et je me suis rendu compte qu'on avait tout simplement pas le temps de traiter toutes ces choses dans le cadre d'un film.
Niin, mulla oli erittäin valmis pohja, mistä mun oli hyvin helppo sit lähteä rakentamaan tätä runkoa ja kirjoittaa niin kuin laajemmin auki sitä, että minkälaista siellä kuussa natsihallinnossa eläminen on.
Et donc j'avais tous les éléments nécessaires en fait pour développer la description d'une communauté nazie donc implantée sur la lune.
Ja mun täytyy tunnustaa, että kirjassa mä muun muassa paikkaan muutamia elokuvan erittäin pahoja juonen epäloogisuuksia.
Et je dois avouer que dans le livre, je corrige quand même un certain nombre de côtés totalement improbables du scénario.
Est-ce qu'il reste des grands mystères? Quels sont les grands champs de recherche sur la Lune désormais aujourd'hui? Vous le disiez, que 5%, 4 km² explorés. Quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles les chercheurs travaillent?
Alors beaucoup de choses, parce que déjà la Lune, elle nous sert, c'est un peu la pierre de rosette des planétologues. Elle nous sert pour développer un petit peu tout ce qui est modèle de formation de tout ce qui est corps rocheux, gros corps rocheux dans le système solaire. Donc c'est grâce aux échantillons qu'on a ramenés de la Lune qu'on a compris comment elle s'était formée, qu'au début de son histoire elle était fondue, qu'ensuite il y avait un océan de magma qui se refroidissait, des métaux lourds qui coulaient au centre de la planète pour former un noyau métallique, des roches plus légères, les matériaux silicatés qui flottaient pour former une croûte. C'est comme ça qu'on sait que la Terre, maintenant, a un noyau, un manteau, une croûte, et comme toutes les autres planètes rocheuses du système solaire. Donc, tout ce qu'on sait beaucoup de choses qu'on sait de la formation des planètes en général, c'est grâce à la Lune. Pour l'évolution, c'est pareil. La Lune, elle a une surface assez ancienne, on voit beaucoup de cratères. Et sur la Lune, on peut faire des datations par comptage de cratères. Et on a l'avantage de savoir que telle densité de cratères correspond à tel âge, puisqu'on a ramené des échantillons d'endroits connus, et on a pu mesurer leur âge en laboratoire. Eh ben, ces densités de cratères, on les utilise maintenant pour dater toutes les surfaces du système solaire, sans exception. Donc pour dater Mars, pour dater Mercure, etc. Donc beaucoup de choses qu'on sait, on l'a appris grâce à la Lune. Alors on a encore des modèles simples, on a encore des courbes de datation qui sont peu contraintes pour certains âges, parce que les échantillons qu'on a ramenés, ils ont tous entre 3,4 et 3,9 milliards d'années à peu près. Il y a encore plein de grandes questions. Par exemple, est-ce qu'il y a eu un bombardement intense au début de l'histoire du système solaire ? La Lune l'aurait enregistré, mais il faudrait aller visiter des endroits stratégiques pour le savoir. Comme elle a une surface ancienne, c'est probablement le meilleur endroit d'ailleurs pour savoir ce qui s'est passé au tout début de l'histoire du système solaire, quelle était l'intensité des bombardements, etc. On a encore pas mal de questions sur... on a détecté récemment de la glace d'eau sur la Lune, donc au niveau des pôles. Sur l'origine de cette glace d'eau, ce serait probablement la même eau aussi qui aurait été amenée sur la Terre, la même origine que l'eau terrestre. Et normalement, aux températures où se sont formées les planètes du système solaire interne, les planètes rocheuses, ne devaient pas y avoir d'eau. Donc on se dit que cette eau, elle a peut-être été apportée plus tardivement par des météorites, des comètes, des choses comme ça. Donc comprendre l'origine de l'eau sur la Terre ou sur la Lune, hein, c'est probablement la même. C'est important aussi pour comprendre l'origine de la vie sur notre planète. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en termes de... On a toute une diversité géologique qu'on ne comprend pas sur la Lune. Maintenant, on essaye de coupler un petit peu les intérêts scientifiques pour essayer de motiver les agences spatiales à retourner sur la Lune avec les intérêts économiques. Donc, on s'intéresse beaucoup au potentiel en termes de ressources sur la Lune. Donc, c'est pas tout à fait faux quand dans Iron Sky, on les voit exploiter tout un tas de choses. C'est juste que pour l'instant, on est un petit peu au début de ce domaine. Mais voilà, il y a pas mal de choses encore à comprendre en termes de formation, évolution du corps en tant que corps planétaire. Et puis, tout un tas de processus en surface aussi. Je n'ai pas mentionné, mais les effets du... on regarde un petit peu le vent solaire, tous les micro-bombardements, la formation du régolithe à la surface de la Lune, la toxicité de la poussière lunaire. On s'est rendu compte que c'était toxique pour les astronautes d'Apollo. On ne connaît pas bien les propriétés de cette poussière. On ne sait pas encore trop comment bien s'en débarrasser pour les futurs astronautes qui iront là-bas. Ça a tendance à se coller apparemment sur les combinaisons. Et c'est vraiment toxique à respirer. Hein, ça pourrait les tuer s'ils respiraient trop de cette poussière. On a tout un tas de choses à déterminer, vraiment, même en termes de composition fine des sols et tout ça, avant de pouvoir imaginer de faire tout un tas de choses sur la Lune. Donc il y a encore beaucoup de boulot.
Joo, mä olin omasta mielestäni niin kun ottanut aika hyvin selvää näistä asioista. Olen hyvin iloinen kuulla, että kuullessani, että ammattilainenkin on nähnyt sen vaivan.
Oui, je trouve que j'ai quand même fait un gros boulot de documentation et je suis très contente qu'une professionnelle, une scientifique, y voit quand même quelque chose de sérieux.
Oui, alors, je sais que des fois, les scientifiques, on nous prend un peu pour des rabat-joie par rapport à la science-fiction, parce qu'on est obligé de dire, ah, c'est pas vrai, hein, une atmosphère sur la Lune, c'est horrible. Mais je dois dire quand même, par exemple, pour le film Iron Sky, moi, je l'ai vu plusieurs fois, je me suis éclatée. Parce que, bah, déjà, on a quand même le droit d'aimer la science-fiction, même en étant scientifique. Et là, pour le coup, c'est un film où on sait déjà dès le début qu'il faut le prendre au second degré. Et à côté d'aberrations comme le fait d'avoir une base nazie sur la Lune, eh ben, y avait des choses qui étaient très précises, justement, comme cette exploitation des ressources, qui est de regarder un peu l'hélium-3, les choses comme ça, qui sont des trucs auxquels on s'intéresse vraiment pour de vrai sur la Lune. Donc voilà, l'imaginaire, finalement, et la science ne sont pas incompatibles, mais c'est vrai que des fois, c'est un art de savoir un peu conjuguer les deux.
Est-ce que quelqu'un, on arrive à la fin de cet entretien, il nous reste une dizaine de minutes, est-ce que quelqu'un a des questions à poser à nos intervenants ? Bien fort, s'il vous plaît.
Par rapport aux Martiens, vous voulez dire. Alors attendez, je me rappelle là parce que là à froid, c'est. Je crois qu'il y a un site sur internet qui s'appelle l'Agence Martienne qui expliquerait ça de façon beaucoup plus précise. Mais en tout cas, je crois que ça a son origine au 19e siècle parce qu'en fait les Martiens. Au 19e siècle, notamment les Martiens, les Vénusiens, enfin tous les finalement les illustrateurs du 19e siècle ont inventé littéralement des extraterrestres. Alors assez humanoïdes hein, quand même. C'est une des particularités des extraterrestres du 19e, c'est qu'évidemment ils nous ressemblent beaucoup. Mis à part la couleur, mis à part certaines formes avec des trompes, avec des pieds palmés, avec des oreilles, vous voyez, qui partent un petit peu sur les côtés comme ça, en forme de trompe. Enfin c'est tout à fait intéressant de voir comment le 19e siècle on a exactement ça chez Gustave Doré par exemple lorsqu'il va illustrer donc le rôle en furieux de l'Arioste. Et puis donc je crois hein, je veux pas vous dire de bêtises, mais cette expression là elle doit venir de cette fin du 19e siècle qui est quand même une science-fiction un peu, d'abord qui ne s'appelle pas encore science-fiction et puis qui est totalement fantasmagorique, ça c'est clair.
Et puis aussi des extraterrestres qui au début du 20e, tout du moins, enfin deuxième partie, sont la représentation notamment des communistes pour les Américains.
Oui, aussi, tout à fait. Ce que je voulais rajouter aussi par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il y a deux références que je n'ai pas utilisées, c'est qu'en fait la Lune devient aussi véritablement un objet de pop culture. D'abord parce qu'elle est complètement popularisée à travers la célébrissime, enfin les deux tomes évidemment de Objectif Lune et donc de Hergé dans la série des Tintins. Et là, vous voyez, on n'est pas du tout... C'est de l'anticipation. On n'est pas du tout dans la science-fiction. C'est-à-dire qu'à quelques années près, Hergé, bon, même si la fusée, bien sûr, que vous pouvez voir, d'ailleurs, il y a une très jolie maquette, si un jour vous allez à Bruxelles, au musée de la bande dessinée à Bruxelles, la fusée, évidemment, est une fusée de science-fiction encore, mais le voyage en lui-même, le voyage dans la Lune, se rapproche quand même très fortement, finalement, de ce qu'il sera dans la réalité. La Lune va aussi intégrer, par exemple, les mangas avec la série Goldorak, et je pense que ça a participé, à mon avis, à la construction d'un imaginaire sur la face cachée de la Lune, puisque Goldorak, c'est le premier manga qui va être popularisé et diffusé en France sous la forme donc de dessin animé, et évidemment les méchants extraterrestres, Vega, sont sur la face cachée de la Lune, comme le seront après les méchants nazis, évidemment, dans le livre de Johanna. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions? Une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Moi, je vais demander à nos deux auteurs s'ils vont retourner dans des prochains récits sur la Lune.
Je suis assez tenté. Alors, pas un projet en particulier, mais je suis quasi certain que tôt ou tard, même plus tôt que tard, j'y reviendrai, toujours en la mêlant à l'histoire. Je ne sais pas encore à quelle période, mais voilà, j'ai vraiment envie d'y revenir. Je voulais juste rebondir, pour rejoindre ce qu'on disait sur le fait que, quand même, je trouve que tous ces petits mystères scientifiques que vous évoquiez sont encore propres à faciliter, enfin, notre imagination. Je pense qu'un des derniers, quand vous parlez de la poussière, Stephen Baxter a écrit Poussière, d'ailleurs, je crois, donc, qui est, à mon sens, un des derniers livres sérieux, à titre personnel, j'ai adoré. Alors, il a peut-être une quinzaine d'années maintenant, ce titre, enfin, je ne sais plus, 10 ou 15 ans, mais enfin, voilà, un auteur majeur, sérieux, qui s'est attaqué, de façon très sérieuse, à la Lune, et je pense, là, pour le coup, scientifiquement, très documenté. Mais voilà, tout à fait, mais c'était là quasiment une exception aussi. Parce que...
Johanna, est-ce que vous allez y retourner?
Joo, kyllä ehdottomasti joskus kuuhun täytyy palata.
Oui, il faut absolument que j'y retourne un jour.
Mä olen kerännyt niin paljon siitä tietoa ja mä liikuskelen siellä aika luontevasti, joten olisi melkein rikollista olla palaamatta jossakin tarinassa sinne.
Oui, j'ai accumulé tellement de documentation et de connaissances sur la Lune que ce serait presque criminel de ne pas y retourner un jour.
Mutta ehkä tällä kertaa jätän ne natsit pois.
Mais je crois que je laisserai les nazis de côté la prochaine fois.
On va remercier... oui, une question.
Mais les Japonais, ils pensent vraiment. Il y a des tunnels de lave sur la Lune. Et on y réfléchit pour si on envoie des équipes d'astronautes sur la Lune pour des périodes un peu plus longues, pour s'en servir comme abri. Vraiment, si on fait des bases temporaires ou même à long terme, des bases permanentes sur la Lune, beaucoup de gens pensent aller se cacher dans ces tunnels de lave pour être juste à l'abri, tout simplement, des radiations et pour avoir des températures qui éventuellement seraient un peu plus constantes. Donc il y a un vrai projet avec l'agence spatiale japonaise de cartographie de tous ces tunnels de lave sur la Lune.
Comme quoi. on va remercier nos auteurs, on va vous remercier, ils sont tout de suite en dédicace. Merci à vous et bonne soirée.